Bob Kabamba, bonjour.
Oui, bonjour.
Félix Tshisekedi, cinquième président de l'histoire de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une surprise ou pas pour vous?
Oui, c'est une surprise lorsque l'on analyse le processus électoral. Cette analyse tendait à montrer de manière très claire que le candidat Fayulu a pu mobiliser l'électorat qui vote généralement Kabila ou qui vote généralement les candidats de l'Est du pays. Par ailleurs aussi, on a remarqué aussi qu'il y a eu quand même un engouement pour Félix Tshisekedi dans les régions du centre et dans certaines régions de l'Ouest, ainsi que dans les régions de l'Est. Et donc, ces deux candidats ont pu capter des électeurs qui ne sont pas de leur région. Ce qui prouve véritablement que l'électorat congolais était manifestement pour un changement. Alors quel changement? Est-ce que c'était un changement Félix Tshisekedi ou un changement avec Fayulu? Les résultats qui ont été publiés par TV5 Monde, RFI et le Fashionable Times tendent à prouver de manière claire que c'est Fayulu qui a pu capter l'essentiel de l'électorat anti-régime, que ce soit à l'ouest, mais aussi bien à l'est du pays.
Mais alors pourquoi le pouvoir sortant a-t-il privilégié le scénario Félix Tshisekedi au détriment de Martin Fayoulou?
La réponse est assez simple. Si vous prenez le cas de Fayoulou, vous allez vous rendre compte que derrière Fayoulou, il y a deux poids lourds, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ces deux leaders peuvent se retrouver être des adversaires farouches par rapport au pouvoir en place actuellement. D'une part, parce que Jean-Pierre Bemba peut être en mesure de pouvoir contester les équilibres qui existent au niveau des forces de sécurité, et d'autre part, Moïse Katumbi pouvait être en mesure de déséquilibrer le monopole des moyens financiers que détenait le pouvoir en place. Alors, de ce point de vue-là, Félix Tshisekedi, qui n'a que Vital Kamerhe, si on peut dire, comme soutien, s'avère être un adversaire moins farouche que ne représentait Fayulu. Et de ce fait, on peut comprendre du côté du pouvoir qu'ils ont privilégié beaucoup plus le candidat Félix Tshisekedi plutôt que le candidat Fayulu.
Du coup, se pose la question du partage du pouvoir entre le nouveau président Tshisekedi et l'ancien président Kabila. Comment voyez-vous la suite?
D'une part, on a un président de la République qui effectivement est responsable du bon fonctionnement des institutions de l'État. Et d'autre part, on aura un gouvernement qui est issu donc de l'Assemblée nationale et c'est ce gouvernement qui est amené à pouvoir diriger. Alors, entre ces deux institutions, la Constitution a vraiment essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas des dispositions conflictogènes entre ces deux et qu'il puisse y avoir véritablement une concertation à chaque fois entre le président de la République et le gouvernement qui est issu donc de l'Assemblée. D'autre part, il y a aussi une disposition intéressante, c'est la possibilité pour le président de la République, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, de pouvoir nommer un informateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de voir au sein du Parlement congolais comment dégager une majorité parlementaire. Et donc, cet informateur peut travailler pendant 30 jours pour essayer de proposer une assemblée parlementaire qui serait dirigée par une nouvelle coalition. Et donc, cet aspect peut effectivement amener à ce que le président Tshisekedi ait une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de Kabila, cette marge de manœuvre qui peut lui permettre d'essayer d'avoir une capacité d'action en termes de gestion du pays.
Voulez-vous dire que grâce à cet informateur, un certain nombre des quelques 330 députés pro-Kabila peuvent devenir pro-Tshisekedi?
Tout à fait, et tout dépendra effectivement de l'habileté de négociation de cet informateur. Donc on peut proposer à Félix Tshisekedi une nouvelle majorité et faire exploser la plateforme FCC, qui est une plateforme électorale. Et cette plateforme électorale regroupe en son sein plusieurs groupements politiques et plusieurs partis politiques.
La transhumance est autorisée à Kinshasa?
La transhumance est autorisée et elle est généralement facilitée par la capacité d'achat des regroupements politiques. L'achat se fait sous base des moyens financiers, mais aussi par rapport à l'appât des postes ministériels, autres responsabilités au sein de l'État. Généralement, les partis politiques sont friands de ces postes de responsabilité ainsi que des postes ministériels. Et le fait de pouvoir disposer de cet outil-là va permettre à cet informateur de pouvoir capter toute une série de regroupements, les faire basculer du FCC majoritairement kabiliste à une espèce de majorité qui serait pro-Tshisekedi.
Mais franchement, Bob Kabamba, est-ce que vous imaginez que Joseph Kabila puisse renoncer au contrôle sur la sécurité et sur les mines?
Joseph Kabila ne pourra pas renoncer sur ces deux secteurs du fait qu'il a bâti depuis quand même plusieurs années pour arriver effectivement à avoir le monopole sur les services de sécurité, notamment sur l'armée, sur la police et aussi sur les services sécuritaires civils.
Vous voulez parler notamment de l'agence ANR?
Oui, de l'agence l'agence ANR. Donc ces trois piliers du service de sécurité sont dirigés essentiellement par des hommes fidèles à Kabila. Et le nouveau président aura du mal à pouvoir les changer, puisque tout simplement, pour pouvoir les changer, il est indispensable de passer par le gouvernement. Et que si le gouvernement est piloté par les hommes de Kabila, je vois mal comment il pourrait accéder à une demande, par exemple, de Tshisekedi pour les changer. Par ailleurs, les finances au niveau de la RDC, il y a d'une part les finances publiques. Malheureusement, ces finances ne sont pas très grandes, puisqu'on sait que le budget congolais tourne autour de 5 milliards de dollars par an. D'autre part, il y a ce qu'on appelle le secteur financier mobilisable en dehors de l'État. Et ce secteur mobilisable en dehors de l'État est constitué de deux piliers essentiellement. Il s'agit de mines et il s'agit du pétrole. Or, ces deux secteurs sont déjà contrôlés par des sociétés qui ont des liens soit directs ou indirects avec le régime de Kabila. De ce fait, il y a carrément un monopole de ce côté-là que Félix Tshisekedi aura du mal à pouvoir briser. Or, sans ces deux outils, Félix Tshisekedi aura vraiment véritablement beaucoup de difficultés à pouvoir arriver à asseoir son pouvoir et aussi à pouvoir impulser une autre gouvernance que celle qui est attendue aussi bien par les Congolais que la région ainsi que la communauté internationale.
Vous disiez que le camp de Tshisekedi est fort notamment au Kasaï et au sud Kivu et que le camp Fayulu est fort notamment dans l'Équateur, le Bandundu et le Katanga. Est-ce que vous craignez des tensions régionales et communautaires ?
Les tensions régionales et communautaires ne sont plus à craindre du fait qu'il y a un acteur important qui n'a pas encore décidé quelle est la voie qu'il va suivre. Il s'agit justement de l'Église catholique représentée par la CINCO. Et c'est cet acteur qui, de mon point de vue, est l'élément central pour qu'il puisse y avoir des revendications ou bien des manifestations dans les zones que vous venez de citer. Si l'Église catholique ne se mobilise pas contre le nouveau pouvoir ou bien le nouveau président, je vois mal comment l'opposition pourrait s'en sortir et je vois mal aussi comment les gens pourraient se mobiliser contre Félix Tshisekedi. Et si l'Église décide donc de pouvoir mobiliser, là, effectivement, on risque d'avoir des tensions. Mais si l'Église ne mobilise pas, nous aurons une espèce d'accalmie et au fur et à mesure des mois qui vont passer, on verra si l'Église décide finalement ou pas à accompagner ce nouveau pouvoir.
Bob Kabamba, merci.